Et donc, je propose qu'avant la pause, nous accordions un petit temps au débat. Peut-être pour être efficace, on peut ramasser quelques questions et ensuite donner la parole aux trois intervenants. Frédéric ?
Oui, merci. Donc, je trouvais ça tout ça très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec les premières communications sur la relativité et finalement, et montrer que le transnationalisme correspond à un point néolibéraliste, néolibéral, me paraît historiquement vrai. Et alors, justement, je vais vous poser la question parce que bon, je ne vais pas développer des exemples que je pourrais donner sur Los Angeles. Qui confirme ces effets, au contraire, je dirais, votre renforcement du nationalisme en contexte. Mais je pensais, on a parlé de transnationalisme, on a parlé de nationalisme, enfin de transnationalisme comme mode aussi méthodologique d'en finir avec le nationalisme méthodologique, c'est une chose, mais ce qu'on n'a pas évoqué, c'est l'internationalisme. Était là aussi, bon, vous avez cité Lénine à deux reprises, mais il y a aussi le transnationalisme comme opposition à l'internationalisme. Je crois que c'est assez fort. Ça rejoint la dimension néolibérale hein, du mouvement. Et à ce point de vue-là, il y a une autre forme de migration du XXe siècle et du XXIe siècle qu'on n'a pas évoquée, qu'on n'a pas été évoquée, c'est justement, et je pensais aux révolutions aussi, mais c'est les migrations internationalistes. Les brigades internationales, par exemple, justement, qui sont des internationalistes militants qui vont risquer leur vie, jouer leur vie, parfois la perdre, au cours de la guerre d'Espagne, qui est une révolution, donc un coup d'État, etc. Et aujourd'hui, dans le même sens, mais dans un sens opposé, symétrique et inverse, Daesh, qui est aussi des phénomènes migratoires, alors plutôt des pays riches vers, justement, un peu à l'envers, hein, vers les pays pauvres, ou du tiers-monde, ou en tout cas du pouvoir, et pour précisément participer à un nouvel idéal qui peut faire froid dans le dos, évidemment, hein, mais un nouvel idéal internationaliste, qui est l'idéal de l'État islamique, c'est de l'affection populaire. Plus des réflexions que des questions.
Merci. Frédéric Sommat, qui est professeur d'anthropologie à l'université. Je pensais peut-être que vous pourriez juste dire votre nom en prenant la parole.
Voilà, anthropologue et spécialiste en particulier des dernières années du Mexique et de la Californie et des relations aussi entre les deux pays à travers des phénomènes particuliers qui ont très une obsession qui est le cattle ranching, l'élevage et les jeux taurins.
Oui, moi aussi, c'est la même question.
Je te présente une seconde. Oui.
Donc, je suis Célia Langlin, doctorante au LAMES et au LPD en sociologie. Moi, en plus, je n'avais pas forcément une question, mais c'était plus peut-être une réflexion un peu générale en écoutant vos trois présentations. Notamment, envie de réagir sur ce que vous disiez, beaucoup de gens aujourd'hui pense la migration comme illégitime. Je suis peu convaincue, ou en tout cas, je peux l'être, mais ça dépend de qui on parle. Et je crois que on a aussi toute une génération en qui on a invité, si on pense par exemple aujourd'hui, ce qu'on appellerait la génération de mondialisation en France, où on invite à partir voyager, se faire une expérience à l'étranger, on invite les mobilités étudiantes, par exemple, toujours valorisant d'aller se former à l'étranger. Donc, un peu un constat intermittent sur, oui, il y en a qui apparaissent, il y a des migrations qui apparaissent illégitimes, et il y a finalement des populations à qui on demande plus d'expliciter pourquoi ils s'en vont, alors que d'autres, ça va paraître totalement naturel. En tout cas, on va moins demander de se justifier sur pourquoi il part. Et finalement, je crois que ce qui peut être intéressant aussi, nous, c'est peut-être beaucoup moins de s'intéresser aux causes des départs que finalement comment ça se fait très concrètement. S'intéresser beaucoup plus à comment les choses se passent plutôt que pourquoi elles se passent, qui permettrait du coup de faire de mettre un petit peu de côté les distinctions de ce que vous évoquiez à la première intervention sur migration économique ou migration politique. Parce que c'est ça aussi, c'est de revenir à quelles sont les causes, de demander aux gens d'expliciter, de justifier, et de trouver la bonne raison qui permettrait de justifier pourquoi ils sont là, et donc pourquoi on leur donnerait notamment un titre de séjour, etc. etc. Donc voilà, c'était plus une réflexion un peu transversale par rapport à ce que vous avez dit.
Plus forte,
oui, plus forte. Donc, je, peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric Sommade en parlant d'internationalisation, juste effectivement rappeler que cette question de l'internationalisation en sociologie que je connais mieux est ancienne aussi, et depuis le 19e siècle, il y a une internationalisation ouvrière qui a décrit en son temps Durkheim, tout le syndicalisme international. Voilà. Donc ça, c'est une littérature effectivement qui est bien là et qui perdure hein, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, j'avais une réflexion sur ce que vous avez dit beaucoup, les trois intervenants, sur finalement la question de la dépolitisation de la migration, ou à travers la question de la migration. Et je me demandais si c'était pas on n'avait pas finalement dépassé ce stade-là, pour reprendre l'argumentation de Nancy Green, c'est-à-dire que ce transnationalisme libéral, à tout train, etc., hein, parce qu'il fallait forcer le trait, parce qu'il fallait combattre, en tout cas dans le débat français, c'était clairement ça, passer à une autre figure plus libérale, libérante, par exemple, etc., contre la figure de l'immigré, oublié, venu seul, etc., on comprend bien. Et là, effectivement, sous couvert de contexte de libéralisation. Aujourd'hui, je me demande, depuis quelques années déjà, depuis une dizaine d'années, si on n'a pas, on n'assiste pas à une repolitisation de la question migratoire, mais qui prend d'autres formes, y compris, je ne sais pas si Béatrice Mézignon est là, mais qui le montre bien dans ses travaux, sur bien, ce qu'on entend chez d'autres auteurs comme Ludwig Beck, la force des sociétés civiles, de la société civile, les forums mondiaux. Alors, voilà. Est-ce qu'on n'assiste pas, d'une certaine manière, au niveau un autre niveau, là aussi, global, transnational, etc., une robotisation de la question.
Stéphane ?
Oui, pour poursuivre dans cette veine, mais pour rebondir aussi sur l'intervention de Frédéric, il y a effectivement ces migrations, il faut qu'on en a discuté hier là, dans le cadre du groupe là, de travail sur la classe des migrations. Je pense que ces mobilités, elles ne sont pas simplement liées à la question de l'internationalisme, liées à la question en fait, de l'engagement, le cas des brigades internationales, le cas aussi des anarchistes à la fin du 19e siècle, mais ces mobilités, elles sont aussi liées au nationalisme, un engagement qui peut, lui, notamment pour des périodes plus anciennes, être lié à cette dimension du nationalisme, ce qui me fait le lien avec une autre réflexion, puisque vous avez l'une et l'autre, et en particulier Nancy, évoqué d'une certaine manière le retour de l'État-nation. L'État-nation n'est pas mort, hein, avez-vous dit. De ce point de vue-là, il me semble que peut-être ça repose aussi la question, en tout cas une notion dont on n'a pas parlé depuis ce matin, ou très peu, la question de l'intégration. Nancy, tu disais qu'effectivement, il y avait eu trois moments, hein, le moment de l'assimilation, le moment de multiculturalisme et de l'ethnicité. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'en France, en particulier, l'histoire de l'immigration contemporaine, a d'abord été dans les années 80, ça répondait d'ailleurs aussi à un contexte particulier, qui était l'émergence du Front National, notamment, hein, avec les élections de Dreux, la marche dite des Beurs, etc., et que les historiens ont répondu aussi à ce contexte, et dans ce contexte-là, ils ont proposé une histoire de l'intégration. Et c'est d'ailleurs très largement sous l'influence des autres sciences sociales que depuis quelques années, effectivement, encore une fois, on ne balaye pas d'un revers de main le paradigme de l'intégration, mais qu'on s'inspire hein, de vos travaux sur les circulations, de la question du transnationalisme. Hein, tu le disais, l'article, hein, rien de nouveau sous le soleil, pour reprendre la formule de Bellinger, hein, c'est ce que pensaient les historiens lorsqu'ils ont découvert. Effectivement, les historiens, Bellinger le dit très bien, faisaient du transnationalisme sans savoir de longue date, mais en même temps, tout en reconnaissant le caractère stimulant hein, de ce contexte. Et donc la question qu'on pourrait se poser, enfin, que je vous pose, puisqu'on voit bien que dans le débat public, hein, cette question de l'intégration, qui est le corollaire du retour de l'État-nation, est omniprésent, bien quid justement des sciences sociales? Est-ce qu'on peut continuer justement regarder ça avec, pour le dire presque, une certaine condescendance, hein, à l'égard, on le voit bien, hein, vous évoquez des conférences, hein, historiens aussi font des conférences en disant aux gens, mais non, c'est pas possible, on peut pas parler d'intégration, hein, l'intégration ça veut rien dire, etc. Il faut qu'on se retrouve quelque part en décalage, hein, avec un certain nombre, si ce n'est de réalité sociale, mais en tout cas de représentation sociale, assurément, hein, autour de ce paradigme de l'intégration.
Alexis, Thomas, qui a fait une place répondre.
Oui, Alexis Nuselovici. Brièvement, je me demande s'il n'y a pas aussi une autre perspective à adopter quant à la question du transnationalisme. Je voudrais partir sur deux exemples. Il y a quelques années, on a republié une traduction des Damnés de la Terre de Frantz Fanon aux États-Unis, et le préfacier était Homi Bhabha. C'est-à-dire que ce manifeste de l'anticolonialisme était préfacé par le théoricien du postcolonialisme. Je ne suis pas certain que la chose aurait pu se produire en France. Deuxième exemple, et nous en discutions tout à l'heure, la notion d'exil. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'en France, on peut discuter autour de migration ou exil, expérience migratoire, etc. Ça ne fonctionne pas aux États-Unis. Donc je me demande si, tout à l'heure on a fait la louange des concepts de voyageurs, etc., des théories qui voyagent, etc., mais je me demande s'il n'y a pas aussi la nécessité de prendre en compte ce que j'appellerais une géo-épistémologie, c'est-à-dire que plus les concepts voyagent, plus les résistances apparaissent. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il faut reconnaître effectivement cette réalité, l'analyser, et donc trouver des processus de traduction, voire même d'adaptation, ou au contraire, perpétuer cette idée d'un savoir universel, etc. Et je crois que plus nous sommes dans des concepts qui peuvent passer très facilement les frontières, c'est peut-être là qu'il faut avoir une attitude de méfiance à l'endroit de ces passages-là.
Thomas ?
Oui, c'était pour une remarque sur ce qu'a dit Sylvie Mandela, sur la question, finalement, il y a eu une dépolitisation des flux d'immigration, mais finalement on n'a pas déjà dépassé, puisque la question s'est repolitisée peut-être en dehors du monde académique. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été dépolitisée. Et en réalité, je ne pense pas que c'est ce qu'on a entendu ici. Ce qu'il y a, c'est que il me semble que toute la théorie critique a montré qu'une des forces du néolibéralisme comme idéologie est de s'être imposée précisément sur la fin des idéologies et d'avoir imposé des cadres de pensée qui sont éminemment politiques, mais qui se sont présentés comme émancipés de la politique, consensuels, évidents, et que la politique s'était renvoyée juste à une affaire de gauchistes enragés. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on dévoile assez tardivement le caractère politique de ces concepts qui apparemment étaient dépolitisés, mais n'ont jamais été, en fait. Et je pense que c'est ça, ce mouvement qui se produit, à mon avis, d'abord dans les milieux associatifs et dans les milieux politiques, et un peu tardivement dans les milieux académiques. Oui.
Première
journée
de réponse.
Je vais répondre à madame. Sur la question de la légitimité ou la non-légitimité de la migration aujourd'hui, il est clair que quand j'ai dit ça, je me posais par rapport à la perception en France des questions d'immigration. Et si justement j'ai tant tenu à ce qu'il y ait une double notice sur l'autre côté dans ce dictionnaire, c'est pour montrer que dans chaque pays, chacun peut voir que tout au long de l'histoire, son propre peuple a été lui aussi amené à migrer, quelles que soient les raisons, quel que soit le contexte. Vous voyez, c'est ça l'idée. Cependant, j'en profiterai aussi pour pointer les subtilités du vocabulaire en la matière. Quand on parle d'étrangers en France, on va dire des immigrés, des migrants, etc. Quand on parle des Français à l'étranger, on va dire des expatriés. Et quelqu'un sur un CV ne mettra pas émigré aux États-Unis, ne mettra pas émigré en Chine, ne mettra expatrié, expatriation. Donc, oui, le langage dévoile bien là la contradiction qui existe, oui, entre la réalité et la représentation qu'on veut en donner. C'est ça ce que on a voulu pointer. Bon, maintenant, sur la question de l'intégration, je viens sur cette question aussi. Parce que dans le Luttenaire, et je m'en suis expliqué tout au début de manière très explicite, nous n'avons pas, il est arrivé que dans certaines notices, la question soit abondamment développée ou documentée de manière vraiment intéressante, parce que justement, apportant l'approche, on va dire, géolocalisée du pays en question. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mais de manière générale, nous n'avons pas souhaité que cet aspect soit trop, on va dire, surdéveloppé par rapport à l'aspect migratoire de la chose. C'est quand même en amont de la chose. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, on n'aurait pas fait le même type de dictionnaire. Voilà. Ça n'aurait pas été construit de la même façon, pas par référence à l'espace, mais par rapport à d'autres considérations. Vous voyez ? Et donc, c'est une autre question. Je ne veux pas dire que les deux questions sont évidemment liées. Mais l'intégration, moi personnellement, je considère que c'est un autre problème et qu'on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes d'analyse pour l'intégration que celles que nous utilisons pour les migrations. Voilà. C'est pas sur le même plan, c'est pas les mêmes objets, etc. Les deux sont liés, bien sûr, hein, évidemment. Mais l'intégration, c'est un autre monde. Juste ce point qui me paraît important, c'est une notion qui est trop floue, à mon avis. Trop floue. Et que ça veut dire aujourd'hui être intégré ou ne pas être intégré? Il ne suffit pas de ne pas être, il ne suffit pas d'être étranger pour ne pas être intégré. Hein, je prends uniquement ce cas de figure. Ouais. Mais quelqu'un, par exemple, qui est handicapé, quelqu'un qui était dans la vie active et qui est victime d'un accident de voiture, qui se retrouve dans un fauteuil, vous voyez, est-ce qu'il est encore intégré? Est-ce qu'il est autant intégré? C'est la question. Et même le regard que la société porte sur lui sans le dire, hein, regard souvent lourd, eh bien, ce regard-là, il porte toute cette question de l'intégration, de la non-intégration. Et c'est pour ça que je dis que cette question relève d'un autre domaine, que celui de la migration. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Nancy, tu étais concernée, je crois.
Oui, je peux répondre, mais tu vois. Ok. Donc, sur les termes internationalisme et transnationalisme, c'est effectivement une bonne question, puisque, mais à différentes époques, on a parlé. Ben, il y a des distinctions qui sont faites. Internationalisme vraiment parlerait des relations entre États, par exemple, et que c'est différent du trans qui devrait être au-dessus des nations, au-delà des nations. Mais en fait, il y a des mouvements des internationalistes historiques bien connus, et puis donc on peut se poser la question. L'autre problème pour le terme transnational, c'est le nation, puisque est-ce qu'on peut parler de transnationalisme avant l'avènement des États-nations? Et pourtant, on l'utilise parfois dans les colloques sur les périodes antérieures. Et est-ce qu'on peut l'utiliser pour des questions de transfrontières, en fait, même à l'intérieur des espaces qui ne sont pas forcément des nations? Donc, effectivement, tous les termes posent problème. Je crois que ce qui est clair, c'est que l'usage aujourd'hui du transnational et la façon qui est utilisé et qui a balayé une certaine forme de terme, de l'utilisation du terminologie de l'internationalisme et qui a en fait d'autres consonances historiques. C'est surtout, je pense, cette valeur positive de la mobilité et du transnational qui a été important et qui le distingue de d'autres formes et qui comporte donc certaines valeurs, à quel point on ne va pas l'utiliser pour Daesh, on ne va pas l'utiliser même pour les mafias, par exemple. Les exemples pour le transnationalisme, ce n'est pas ces exemples-là qu'on va donner sous cette rubrique, à cause de, en fait, cette force positive, cette mobilité, comme vous avez suggéré sur la mobilité encouragée des jeunes. Donc, c'est une valeur positive, il faut bouger, etc. Donc, c'est vraiment lié à cette...
Et
je suis d'accord, c'est une idéologie, c'est pas apolitique, parce que c'est aussi lié à une certaine idéologie de l'individu qui a une force de mobilité
individuelle,
etc. Alors, donc, juste deux autres points. Il y a un retour sur l'assimilation. Et je pense que ou les questions d'intégration qui, en fait, n'étaient jamais, n'avaient jamais disparu non plus, puisque les États s'inquiètent, les sociétés font, et les groupes d'immigrés, ils font leur, ils vont à l'école, ils s'insèrent dans les sociétés, et les chercheurs ont fait des retours explicites sur l'assimilation, Léo Lucassen notamment, Russell Cazale aux États-Unis ont vraiment explicitement dit, bon, ça va, l'ethnicité, le multiculturalisme, mais il faut aussi revenir sur, et notamment ceux qui travaillent sur les Mexicains aux États-Unis aussi, on dit que finalement, beaucoup, ils parlent tous l'anglais, enfin, je veux dire qu'il y a aussi des formes de ceux qui sont restés à certaines durées dans un nouveau pays, comment ils se sont adaptés au pays où ils vivent. Donc, mais explicitement, des chercheurs reviennent aussi pour interroger ce phénomène. Et moi, j'ai argumenté à un moment donné que la question de l'assimilation, ça aussi, c'est une question de temporalité. Quelle est la durée de l'assimilation? C'est pour une personne, combien de temps faut-il pour s'adapter? Combien de générations faut-il pour des groupes, pour que des gens, en fait... Et donc, ça dépend aussi des durées qu'on choisit d'étudier, qui déterminent aussi, d'une certaine manière, la façon qu'on analyse l'assimilation ou l'intégration. Dernier point sur les concepts migratoires. Les concepts migrent aussi, effectivement, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de succès d'assimilation. J'avais travaillé sur le concept de melting pot et comment il est arrivé en France. Et donc, il y a une historicité des migrations, des concepts qu'on peut tracer et de voir comment ils sont utilisés dans un autre pays. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Quelles sont les choses qui sont intégrées, pour quelles raisons? Une phrase comme le melting pot, au début, c'était entre guillemets, puis après, il perd ses guillemets. Donc, il y a des mots comme ça qu'après sont utilisés de plus en plus, mais il y a aussi creuser. Yves Lecam m'avait dit, il avait sorti son livre en même temps, à peu près en même temps que Gérard Noiriel, qui avait donc pris le mot le creuser, et Yves Lecam a dit qu'il aurait vu l'utiliser, mais c'était déjà pris. Alors il a vu avec l'éditeur qu'est-ce qu'ils allaient faire, et puis ils ont choisi la mosaïque France dans la première édition de ce livre, qui d'ailleurs aussi est très, très important, parce qu'il parle des périodes anciennes aussi dans cet ouvrage. Et il a dit, mais après, mosaïque, parfois c'était rangé dans les métiers de faire des mosaïques, donc les gens ne savaient pas forcément de quoi il s'agissait dans un premier temps. Voilà, donc les mots peuvent avoir aussi les destins différents, les usages différents.
Alors moi, je voulais répondre tout d'abord sur la dépolitisation. J'espère m'être fait comprendre, parce que évidemment, quand je disais le transnationalisme, c'est une façon dépolitisée de parler de migration, j'entendais dépolitiser dans le sens de la lecture libérale, néolibérale. J'espère avoir été claire là-dessus. On a remis l'accent sur le sujet, etc. Et donc, c'est évidemment pas dépolitiser, ça n'existe pas. Comment pourrait-on parler de façon dépolitisée? On a toujours eu une perception de la société. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est peut-être la preuve, c'est qu'on a aujourd'hui ce débat, c'est qu'on prend conscience, en effet, de cette politisation qui est partie vers un néolibéralisme effréné, et qu'on est peut-être aujourd'hui en train de revenir dessus, ça je crois. Mais dans tous les cas, on est toujours dans une certaine conception, et donc politique, dans le sens d'une perception de la société. Donc ça, c'était mon premier point. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'était la question de l'intégration. Est-ce que la question de l'intégration n'est pas en train de revenir? À mon avis, elle revient notamment sous une autre forme, c'est celle des travaux sur le racisme et les discriminations, qui aujourd'hui sont vraiment un peu le miroir de l'intégration, c'est-à-dire... On revient un peu sur la notion d'Irkéienne, de l'intégration de la société, et finalement, en quoi le racisme, les discriminations sont des dysfonctionnements de cette intégration. Et enfin, la troisième remarque à laquelle je voulais répondre, c'était la question que posait Madame sur, qui disait, tous les migrants ne sont pas illégitimes. C'est justement ce que je voulais dire en disant on ne peut pas parler de mondialisation par le haut et par le bas de la même façon. Et c'est pour ça que la mondialisation par le haut est légitime et perçue positivement. La mondialisation par le bas est illégitime. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne peut pas y avoir d'effet miroir, de dire finalement c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Les intellectuels ne meurent pas au milieu de la Méditerranée. Voilà.
Sylvie, qui avait encore une hésitation, moi j'ai un petit commentaire.
Une remarque et pour revenir sur un point qui est soulevé par Nicolas Simon, qui est très très important, d'autant qu'on a examiné un peu de jeunes chercheurs, la question des sources. Et je voudrais rendre hommage et saluer l'ingéniosité de Gilbert Simon, qui nous a montré donc que. Voilà, passer par les mandats, passer par la poste, donc passer par les fichiers, les consulats, etc. Et c'est aujourd'hui indispensable, nécessaire. Je ne sais pas comment j'encourage les jeunes à vraiment aller sur le terrain et produire des données quantitatives et cartographiques de manière empirique, tirées de leurs travaux empiriques, et d'être ingénieux dans cette recherche de sources, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une espèce de guerre des chiffres là, qui circulent, qui sont portés par des grands organismes, Eurostat, l'IR, HCR, etc. Et que ce n'est pas possible que ce soit seulement ces chiffres-là dont on ne sait pas trop comment ils sont construits, qui circulent actuellement et qui font valeur de vérité. Donc j'encourage nos jeunes à suivre l'exemple de Gilbert Simon.
Juste sur les sources, justement, c'est peut-être que il faut justement. Travailler ça effectivement en disant quelles sources sont particulièrement adaptées et par exemple sur la question que tout le monde pourrait en fait assez facilement s'approprier des transferts de fonds hein, entre les pays de travail, les pays d'emploi et les pays d'origine, tout simplement en allant sur internet, vous avez une base de données à la Banque mondiale qui vous donne les pays d'origine et les pays d'accueil qui croisent les deux. Donc il y a énormément d'éléments en allant chercher sur Internet, mais il n'y a pas qu'Internet, bien entendu. Mais quand même, il y a beaucoup d'éléments. Alors évidemment, une des choses qui serait particulièrement pertinente, c'est un projet que j'avais eu mais qui n'a pas pu se réaliser, c'est que dans la mesure où, dans certains pays, les banques sont substituées au trafic postal. Je pense par exemple au cas du Maroc ici, la Banque Populaire du Maroc, qui est très, très connue, le premier organisme pour les transferts de fonds vers le Maroc, eh bien, était d'accord à un certain moment pour nourrir ses fichiers, de façon à pouvoir faire des recherches sur l'argent, le lieu d'émission, ce qui reste en épargne au Maroc, ce qui reste sur les comptes, ce qui est réinvesti ailleurs, etc. Donc, il faut aussi oser sur cette question de l'accès aux sources. Je crois qu'il faut oser, en montrant l'intérêt et l'importance des choses. Dernier point, ça concerne donc les jeunes chercheurs, en dire que le bénéfice de cet ouvrage, qui marche très bien, puisqu'on en est au troisième tirage depuis 6 mois ou 8 mois, eh bien, reviendront au financement d'une allocation de recherche pour un jeune chercheur sur les migrations à l'Université de Caen. Et donc, voilà, donc